J'aimerais parler sur le tabernacle dans Exode chapitre 40, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. » Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction et tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous les ustensiles et tu sanctifieras l'autel et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Amen. Nous connaissons bien le tabernacle, mais parfois nous en avons une image un petit peu disparate parce qu'il y a des ustensiles, parce qu'il y a des objets. Et en fait, on se rend compte en étudiant ce sujet qu'il y a une signification spirituelle derrière chaque élément du tabernacle qui nous permet de nous approcher de Dieu. Le tabernacle était l'image et l'ombre des choses célestes. Il a été donné par Dieu à son peuple Israël à un temps où le peuple devait apprendre comment on s'approche de Dieu. Et il y a un message à travers le tabernacle, en fait, qui est spirituel. Ce n'est pas juste des objets, ce n'est pas juste un chandelier, une table, un autel. Mais derrière toutes ces choses, il y a un enseignement spirituel, c'est ça que Dieu veut communiquer. Pourquoi ? Parce qu'il désire nous expliquer comment on va rentrer en communion avec Dieu, comment on peut s'approcher de Dieu. Et aujourd'hui, c'est vrai que le tabernacle, il n'existe plus, en tout cas sur le plan matériel, il a disparu. C'était des objets périssables, c'était du bois, c'était des métaux, tout cela a disparu. Mais en réalité, c'était une image terrestre des réalités célestes. Donc nous nous intéressons aux réalités célestes. Le terrestre disparaîtra. Mais le céleste demeure toujours. Seuls les sacrificateurs pouvaient rentrer dans le tabernacle. Alors, ce n'était pas tous les hommes qui pouvaient rentrer dans le tabernacle, mais ceux qui étaient de la tribu de Lévi. Les Lévites, on les appelait, c'est-à-dire les serviteurs choisis par Dieu dans cette tribu-là. Et donc, ils ne pouvaient même pas rentrer toute leur vie. Il y avait un âge déterminé entre 25 et 50 ans, il y avait une période où ils pouvaient servir, mais avant ou après, ils ne pouvaient pas. Et en plus, il y avait un tour de rôle, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement nombreux qu'ils ne pouvaient y aller peut-être qu'une, deux ou trois fois dans l'année parce qu'ils tournaient à tour de rôle. Donc, il y avait toute cette notion autour du tabernacle. Mais j'aimerais voir avec vous, à travers du tabernacle, cette étape pour nous approcher de Dieu par la prière. Donc, la première étape, c'est la porte. Donc, je vais vous mettre sur le diaporama à chaque fois les images. Donc, la porte, voilà. La porte, c'est la première chose que l'on voit quand on arrive devant le tabernacle. C'est un rideau, en fait, coloré, qui nous introduit dans le grand parvis. C'est assez volumineux, puisqu'il fait 50 mètres de long sur 25 mètres de large, entouré de drap blanc. C'est du fin lin. Et en fait, c'était pourquoi il y avait cet enclos, cette séparation. Eh bien, c'était pour montrer que quand on entre par la porte, on entre dans un lieu sacré, un lieu saint. C'était séparé du monde. C'est pourquoi la Bible, elle donne cette notion de nous séparer des choses profanes pour nous consacrer à Dieu. Déjà, dans l'image du tabernacle, vous aviez une séparation dans le camp entre ce qui était vraiment pour Dieu, à part, hein, ce qui est saint, c'est ce qui est mis à part. Donc le tabernacle était saint et il fallait le distinguer de ce qui est profane. Tout le tabernacle, d'ailleurs, on l'a lu tout à l'heure, il était sanctifié avec l'huile d'onction. Les sacrificateurs étaient sanctifiés, le mobilier était sanctifié, les objets, même les fourchettes, tout ce qui servait au sacrifice, tout ça c'était sanctifié. Ça voulait dire que c'était mis à part pour un usage spirituel. On ne l'utilisait pas pour manger à table, c'était vraiment réservé pour le service de Dieu. Rien de profane ne pouvait rentrer dans la sainte présence de Dieu. Alors on peut apprendre à respecter les choses saintes de Dieu. Vous voyez, on a un exemple dans la Bible, il s'appelait Ésaü. Ésaü, lui, il méprisait les choses saintes de Dieu. Et donc l'auteur aux Hébreux dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, Hébreux 12, 16, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane. » Vous voyez ce terme profane, ça veut dire que lui, il ne respectait pas les choses spirituelles. Profane, ça veut dire attaché au monde, méprisant pour les choses de Dieu, c'est ça profane. Profane, c'est celui qui ne considère pas ce que Dieu fait, ce que Dieu dit comme de valeur. Et pourtant, c'était un croyant, Ésaü, il connaissait Dieu. Mais il ne faut pas être comme Ésaü, un profane, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'était sacré, ça avait une valeur spirituelle, et lui, il a considéré ça comme vain, donc il était profane. Il y avait une seule porte, remarquez bien que dans cet immense parvis, il y avait un seul passage. On ne pouvait pas passer par l'arrière ou par les côtés. Il fallait forcément rentrer par une seule porte, le seul accès. Et quel est le sens spirituel de ce seul accès pour entrer dans le parvis? Eh bien, c'est Jésus qui est la porte. Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin ». Il ne dit pas « Je suis un des multiples chemins ». Il n'y a qu'un seul chemin, une seule porte. La vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si bien si vous voulez aller au Père, il faut passer par la porte, et la porte c'est Christ. Et dans l'Ancien Testament, ils comprenaient qu'il fallait passer par la porte du tabernacle, ça menait à Dieu. La plupart des gens cherchent un accès à Dieu, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de religions, plus de 10 000 religions que les hommes ont inventées dans le monde. Ce sont des petites portes, ils cherchent des portes pour aller vers Dieu. Mais Jésus a dit, il n'y a qu'une seule porte. Et cette porte, c'est Christ. Donc, pas la peine de chercher ailleurs. Jésus dit, il y a un seul chemin. Il dit, il y a un seul médiateur. Le médiateur, c'est celui qui entre, qui réconcilie. Dieu en colère contre le pécheur, l'homme pécheur qui est perdu. Le seul médiateur, c'est Christ. Un seul médiateur. Il y a un seul sauveur, un seul médecin. C'est Christ. C'est une invitation aussi à la louange. Regardez le psaume 100, verset 4. Le psaume dit « Entrez dans ses portes avec des louanges ». Quand nous passons la porte pour entrer dans la présence de Dieu, déjà nous faisons monter nos louanges, notre adoration. Dans ses parvis avec des cantiques. Voilà, le parvis, il est là. Vous avez le grand parvis et vous entrez par la porte avec des louanges, avec des reconnaissances. Célébrez-le, bénissez son nom. Alors, voyez, tout ça, c'est symbolique. Derrière cette porte qui paraît toute simple, il y a une attitude spirituelle à entrer dans la présence de Dieu avec reconnaissance, dans la louange. Non pas avec des plaintes, avec des gémissements, en se plaignant auprès de Dieu de telle situation, en étant amer vis-à-vis de l'un, vis-à-vis de l'autre. Ça, c'est une attitude qui ne peut pas faire monter votre louange vers le Seigneur, parce que ça va au contraire l'étouffer, et puis ça va être plutôt des prières qui ne seront pas agréées de Dieu, puisqu'elles seront basées sur des aspects charnels. Or, nous devons entrer par la porte avec nos louanges et notre adoration. Nous devons orienter nos cœurs, c'est un effort à faire. Et si vous ne faites pas cet effort, votre cœur naturellement va pencher vers ce qui est plutôt négatif, plutôt difficile, peut-être les impossibilités, peut-être vous allez voir tout ce qui ne va pas, le verre à moitié vide. Vous ne voyez pas qu'il est à moitié plein, vous voyez qu'il est à moitié vide. Donc ça, naturellement, vous allez pencher du mauvais côté. Mais si vous êtes intentionnel et que vous dirigez vos cœurs et vos pensées vers le Seigneur, c'est entrer dans ses portes avec des louanges. On entre dans sa présence par là et Dieu vient en communion avec nous. Parce que Dieu aime la louange, il sied au milieu des louanges de son peuple. Donc une fois qu'on a passé la porte, on va dire ça c'est la première étape, j'ai dit il y en a sept. Hein. Première étape donc, la porte, on a passé par la porte c'est Christ, on est dans la louange, on est dans la reconnaissance, on s'approche de Dieu. Et tout de suite après qu'on a passé la porte, il y a l'autel des holocaustes, deuxième étape. La première chose qu'on voit quand on entre dans le parvis, juste après la porte, c'est donc c'est très imposant. Cet autel, il est très grand par rapport au parvis. Donc vous voyez, c'est un grand autel, un autel où on immolait des animaux. Donc on les égorgeait pour les sacrifier à Dieu. Pourquoi on les égorgeait ? Pour que le sang coule. Il fallait que le sang coule pour purifier le péché et pour sanctifier. Ça, c'est le prix du sacrifice. Alors, de quoi nous parle cet autel, puisque cet autel, vous voyez, un animal, le sang qui coule, l'agneau immolé, ça doit vous faire penser à quelque chose, ça nous fait penser à Jésus-Christ qui est l'agneau immolé. Donc, bien sûr, ça nous parle de la croix. La croix, c'est le lieu même où Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme dit Jean-Baptiste, va offrir sa vie en sacrifice. Eh bien, on peut dire qu'il est passé sur l'autel des holocaustes. Et c'est par la croix, si vous venez à la croix, que vous pouvez vous approcher de Dieu. Tous les êtres humains, il n'y a pas... voyez, il y a une seule porte, c'est Jésus, et derrière la porte, c'est la croix. Et donc, c'est le passage obligé pour être réconcilié avec Dieu, parce que Dieu veut être réconcilié avec nous, mais ça passe par un seul endroit, c'est la croix. Romains 5, 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Quand Paul écrit « Christ est mort pour nous », il fait référence à l'autel des holocaustes. Christ est mort pour nous, il y a eu un sacrifice, il y a eu le sang versé, il y a un innocent qui a payé pour nos péchés, c'est Christ, il a payé à l'autel des holocaustes. Alors nous pouvons remercier le Seigneur quand on s'approche de lui, merci pour la croix. Voilà, elle est là, elle est dans le tabernacle, mais spirituellement, elle est là, la croix, elle n'a pas disparu. Nous devons réaliser sa grâce parce que personne ne mériterait d'être ici ce soir, d'être sauvé. Nous étions tous perdus, nous pourrions tous mourir dans nos péchés. Mais comme Jésus est venu sur l'autel des holocaustes, il est mort à notre place. Donc réalisons le plan parfait de Dieu, c'est qu'il aime tous les hommes, il veut tous nous sauver, toute l'humanité. Ça, c'est le plan de Dieu. Réalisons sa souffrance aussi, puisque Dieu qui était dans la gloire, dans la sainte gloire, présence de Dieu, il a accepté de tout quitter pour tout donner pour nous. Il est devenu homme pour mourir sur la croix. Et puis pour nous, ça représente quoi la croix ? Ça représente aussi la repentance. Pourquoi ? Parce que quand on vient devant la croix, eh bien, on vient demander pardon pour nos péchés, puisque Jésus a porté nos péchés sur la croix. Et il y a deux éléments importants que Jésus a prêchés dès le début. Je ne sais pas si vous connaissez le premier message. Tiens, est-ce que quelqu'un connaît le premier message de Jésus ? Ça vous dit quelque chose ou pas ? Oui ? Repentez-vous, et il y a un autre élément. Oui, mais ce n'était pas tout à fait ça. Donc, repentez-vous, oui, ça fait partie du premier message, et il y en a un autre. Quelqu'un sait ? Il y a un deuxième verbe. Il disait « repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». C'est deux verbes. « Repentez-vous et croyez ». Vous pourrez vérifier, quand vous lisez le début des évangiles, le premier message de Jésus, c'est « repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Voilà le message du Seigneur. Et qu'est-ce que c'est ça ?« Repentez-vous et croyez », c'est un appel à la conversion. Faire demi-tour par rapport au péché et s'attacher à Dieu. La repentance, c'est un demi-tour par rapport au péché, parce qu'on est sur la mauvaise route, on va vers la mort éternelle. Donc on fait ce demi-tour, on renonce au péché, mais quand on fait un demi-tour, ça veut dire qu'on va dans une autre direction. Et la foi, maintenant, croyez, c'est l'autre direction. Vous voyez ? Les deux choses, elles sont imbriquées. C'est-à-dire, pour une vraie conversion, il faut que vous vous repentiez vraiment de vos péchés, vous faites ce demi-tour, et que vous vous attachiez vraiment à Dieu. Quand vous avez la repentance et la foi, vous avez les deux faces d'une même pièce, et ça, c'est la vraie conversion. Donc, à la croix, vous trouvez ça. Vous trouvez la repentance et la foi. Et c'est par la croix qu'on s'approche de Dieu. Aujourd'hui, on voit beaucoup de conversions, finalement, qui n'aboutissent pas. C'est-à-dire que les gens se repentent, mais ils ne croient pas, ils ne s'attachent pas vraiment à Dieu. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils abandonnent. Ou alors, il y a des gens qui croient, mais ils ne se repentent pas vraiment de leur péché. Ils ne demandent pas pardon, ils ne vont pas en profondeur. Et donc, ils marchent un temps avec Dieu, mais leur foi est tellement superficielle, ils lâchent. Parce que la conversion n'est pas terminée, elle n'est pas complète. Si vous n'avez pas une vraie repentance profonde, c'est-à-dire vous avez vraiment demandé pardon pour vos péchés, vous réalisez combien vous êtes sale auprès de Dieu, vous réalisez combien vous êtes égaré. Et si vous ne faites pas ce demi-tour pour vous attacher à Dieu, la foi, eh bien, la conversion, elle n'est pas enracinée. Et c'est ces deux éléments qui sont toujours d'actualité. Donc revenons au premier message de Jésus, tout simplement. Première parole de Jésus, repentez-vous et croyez. C'est aussi l'image d'une consécration à Dieu, cet autel, parce que Christ est mort sur la croix pour nous, mais il nous demande aussi de nous sacrifier. Ça, c'est un autre aspect du message de la croix. On aime bien le premier aspect, c'est « Merci Seigneur pour ton sacrifice, je ne mérite rien, c'est la grâce ». Mais il y a toujours un deuxième aspect dans le message. C'est écrit dans 1 Jean 3,16. On connaît bien Jean 3,16, hein, « Car Dieu a tant aimé le monde », mais il y a aussi 1 Jean 3,16. Et 1 Jean 3,16, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous ». Nous, on aime bien s'arrêter là, mais la suite dit « Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Et ça, ça parle d'un sacrifice. Donc la croix, on bénéficie d'un sacrifice, Jésus l'a fait pour nous, mais rappelez-vous toujours de 1 Jean 3,16. Jean 3,16, oui, Christ, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, il y a eu le sacrifice, mais 1 Jean 3,16, nous devons donner notre vie pour les autres. Nous devons aussi passer par le sacrifice. Aussi pour les autres, pour les frères. Et j'ai noté le verbe « devoir ». Quand il dit « nous devons », c'est-à-dire on n'a pas une option A, une option B. Vous voyez, nous, on aimerait bien qu'il y ait au moins deux choix possibles. Bon, « devoir » et puis un autre. Mais non, il n'y a qu'un seul choix. C'est-à-dire « nous devons », c'est une obligation. C'est ce que nous devons faire pour être chrétiens. Nous devons nous sacrifier pour les autres, au service des autres. C'est la bonne voie, c'est la voie de la bénédiction. Ce n'est pas la voie que naturellement on aimerait suivre, parce que ça, c'est du renoncement, c'est du sacrifice, c'est du temps qu'on va mettre au service pour les autres, se sacrifier, parce qu'on va, comme Stéphane témoignait tout à l'heure de cet enfant, il y avait du dessin animé, il y avait des jeux, il va sacrifier quelque chose, il va mettre quelque chose qu'il aime bien, il va le mettre de côté pour les autres, pour aider. C'est ça un peu la notion que nous avons de sacrifier pour Dieu. C'est la voie de la bénédiction. En fait, si vous voulez éviter tout sacrifice, vous ne pouvez pas rentrer dans la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu est accompagnée par des sacrifices. Alors regardez Romains 12:1 pour le confirmer. Ça, c'est Paul. « Je vous exhorte donc, on pourrait dire frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Vous voyez, Paul n'a pas peur d'utiliser le mot « sacrifice » pour parler de nous. Il dit « vous êtes un sacrifice vivant. Jésus s'est sacrifié pour nous, mais vous devez vous sacrifier aussi. C'est le même mot. Sacrifice qui soit saint, agréable à Dieu et qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ah, ce n'est pas une religion que Jésus est venu donner. Ce n'est pas juste je vais à l'église, j'ai fait mes prières et je suis sauvé. Ce n'est pas ça. C'est un sacrifice. C'est pour ça que les vrais chrétiens, ils passent par le sacrifice. Et là, il y a moins de volontaires. Parce que personne n'aime le sacrifice. Mais suivre Jésus, ça coûte un sacrifice. Jésus s'est sacrifié, il nous demande de nous sacrifier derrière lui. Y compris, Jésus a donné sa vie. Marc 8:35. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, on retrouve le sacrifice, parce que c'est quoi le sacrifice? C'est donner sa vie. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Oui, qu'on doit abandonner. Alors, la cuve d'airain, on arrive au troisième étape. Une fois qu'on a passé l'autel des holocaustes, l'animal était offert en sacrifice. On a vu que c'est bien la croix et que nous devons aussi nous sacrifier pour les autres. Mais derrière cet autel, on arrive à la cuve maintenant. Autre étape, le sacrificateur, ici, qu'est-ce qu'il faisait ? Il se lavait les mains et les pieds avant d'entrer dans le lieu saint, puisque derrière cette cuve-là, qui est remplie d'eau, vous avez maintenant le lieu saint et le lieu très saint qui sont à l'intérieur de la tente. Mais le sacrificateur n'entrait pas dans la tente comme ça, d'un seul coup. Il devait se laver les pieds et les mains. Et le fond de cette cuve, en fait, si vous regardiez dedans, vous voyez, en fait, c'était fait avec des miroirs. Des miroirs, c'est les femmes qui avaient fabriqué ça. Donc, c'était une cuve en miroir, si bien que quand vous regardiez dans la cuve, vous pouviez voir un reflet. Et le miroir, c'est assez rare dans la Bible que ça soit mentionné. Il n'y a que 5 passages qui parlent du miroir dans la Bible. Et le miroir, ça évoque la parole de Dieu, qui est le miroir de notre âme. Jacques, chapitre 1, verset 23. « Si quelqu'un écoute ma parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. » Ah, il a regardé son visage, c'est-à-dire on lit la parole de Dieu, ça nous donne des informations, mais on n'en tient pas compte. On continue notre vie sans en tenir compte. Donc la cuve des reins, c'est pour regarder le miroir de la parole de Dieu, pour être lavé par la parole de Dieu. C'est une introspection, c'est une analyse de nos pensées, de nos paroles, de notre comportement. Est-ce qu'il est conforme à la volonté de Dieu ? Parce qu'on peut regarder dans le miroir, on lit, on voit, mais on ne met pas en pratique. On pense que c'est pour les autres. Ou alors, on regarde la parole pour les autres. Mais la parole, c'est le miroir. Quand vous regardez dans un miroir, ce n'est pas pour regarder une autre personne. C'est pour vous regarder vous-même, pour regarder votre cœur. Donc, la parole de Dieu, le miroir, eh bien, ça va vous parler de votre cœur, de votre situation spirituelle. C'est ça, la cuve des reins. En méditant la parole de Dieu, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est un petit peu l'eau. Vous voyez, il y a de l'eau dans cette cuve, là. Eh bien, la Bible, elle parle de l'eau de la parole. L'eau de la parole qui va purifier, qui va nettoyer notre cœur. Et lors de la dernière Pâque, Jésus a rassemblé les disciples et leur a donné un enseignement précis. Et il a fait quelque chose que normalement l'esclave doit faire. Il a pris de l'eau et il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est ceint d'un linge, il a lavé les pieds. Pierre ne voulait pas. Alors Jésus dit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. » Alors Pierre dit, non seulement les pieds, mais aussi la tête. Rappelez-vous que les sacrificateurs, ils devaient se laver les pieds. Les sacrificateurs, ils ne pouvaient pas rentrer dans le tabernacle avec leurs pieds qui n'étaient pas propres. Donc ils devaient se laver les pieds. Et Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Alors Jean 13, 10, voilà ce que dit Jésus. Jésus dit, celui qui est baigné n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. Donc, il fallait qu'il se lave les pieds pour entrer dans le tabernacle. Et l'Église doit être purifiée par la parole. Vous voyez, c'est écrit dans Éphésiens 5, 26. Christ s'est livré pour l'Église afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Vous voyez cette expression ? L'eau de la parole. Eh bien, quand vous voyez cette expression, vous pensez à ceci. La cuve des reins qui était remplie d'eau. Ça, c'est l'eau de la parole qui va vous laver. C'est pourquoi si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous n'allez pas être nettoyé. C'est la parole de Dieu qui va laver votre cœur. Très peu de chrétiens lisent la parole de Dieu de nos jours. Je m'en rends compte quand je fais des rencontres avec des personnes nouvelles qui viennent, qui s'approchent, qui sont chrétiens. Mais je leur demande, mais est-ce que vous lisez la Bible ? Oui, ils lisent la Bible des fois une fois ou deux par semaine, s'ils peuvent. Ou alors, ils lisent juste un verset, le verset du jour. Ce n'est pas ça, lire la parole de Dieu, c'est un suivi, c'est quelque chose de plus profond. Ce n'est pas une perte de temps. Alors, dès le matin, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on écoute les infos, on regarde les réseaux sociaux, on regarde ce qui se passe. Mais la première chose qu'on devrait faire dès le matin, c'est de chercher Dieu, d'écouter sa voix, de lire la parole, de recevoir sa pensée, afin d'agir conformément à sa volonté. Ça, c'est le chrétien. Le chrétien, il est différent des animaux. Les animaux, quand ils se réveillent, la première chose, c'est qu'est-ce que je vais manger ? Qu'est-ce que je vais... Il pense qu'à la nourriture de la terre. Il y a beaucoup d'êtres humains, en fait, c'est manger, dormir et gagner leur vie. Voilà, ça se résume à ça. Il n'y a rien de spirituel. Or, nous devons avoir des aspirations plus élevées, des aspirations spirituelles, c'est-à-dire recevoir la parole de Dieu et être lavé par la parole.
Donc les sacrificateurs, pour revenir à eux, avant d'entrer dans le lieu saint, ils passaient par la cuve d'airain et ils se purifiaient pour entrer dans la présence de Dieu. Alors ça veut dire quoi pour nous ? Eh bien, avant d'entrer dans sa présence, nous devons nous laisser purifier par la parole de Dieu qui va nettoyer nos cœurs, qui va nettoyer nos mains, nos pieds, afin qu'on s'approche dans le lieu saint avec un cœur pur. Parce que Dieu ne peut pas bénir les prières qui ne viennent pas d'un cœur pur. Jacques demande d'élever des mains pures, et c'est relié au cœur. Il faut que ce cœur soit pur pour avoir une prière pure. Quatrième étape, on arrive maintenant, alors on rentre à l'intérieur, tu peux avancer. On va aller dans le lieu saint, normalement, voilà. Quand vous entrez maintenant, vous avez franchi le grand rideau, vous entrez dans le lieu saint, il y a trois grands éléments. D'abord, vous avez les pains de proposition sur la droite. Sur la gauche, vous avez le chandelier et au fond, vous avez l'autel des parfums. On va s'intéresser donc à la table des pains de proposition. Elle était d'or pur. On sait qu'il y avait 12 pains qui étaient changés tous les jours. Ça représentait les 12 tribus d'Israël. Et cette table, elle nous parle de la provision. Pourquoi du pain ? Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il a donné Dieu dans le désert ? Il a donné de la manne. Tous les jours, il donnait de la manne. C'était le pain de Dieu. Et en Jésus, nous avons la vraie manne. Parce que qui est le pain qui est descendu du ciel ? Donc, quand on voyait cette table avec ses 12 pains, c'est le pain de Dieu, le pain que Dieu donnait. Eh bien, qui est cette manne qui descend du ciel ? Eh bien, c'est Christ. Donc, cette table des pains de proposition, elle nous parle bien de Jésus. On a besoin d'être nourri par ce pain-là. Le pain de Dieu, c'est la seule bonne nourriture pour notre âme. Et Dieu pourvoit au ministère de la parole. Donc, il faut recevoir cette parole qui est proclamée. C'est le pain de Dieu, c'est la nourriture de Dieu pour notre âme. On va aussi rajouter que cette table nous parle de communion. En général, quand on est à la table, c'est pour être en communion. Et Dieu désire être en communion avec nous. Alors, c'est à nous de venir à la table des pains, de nous nourrir de Jésus-Christ, qui est le vrai pain du ciel, la manne de Dieu, pour être en communion avec Dieu et communion avec les autres. C'est pour ça qu'à la Sainte-Seine, on partage le pain pour être en communion les uns avec les autres, dans un même esprit, une même pensée, un même cœur. Ensuite, à gauche, vous avez le chandelier, c'est la cinquième étape. Le chandelier d'or, il avait 7 branches. Le chiffre 7, ça vous rappelle le chiffre de Dieu, la perfection. C'était la seule source de lumière, d'ailleurs, dans le tabernacle. C'est là qu'il y avait les lampes. Et en fait, qu'est-ce que représente le chandelier pour nous, spirituellement ? Il représente le Saint-Esprit, le feu. C'est le Saint-Esprit, la lumière. Il éclaire, il illumine nos cœurs, il est une source de révélation. Et en fait, le Saint-Esprit va nous aider dans la prière. Regardez Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc l'Esprit va vous aider à vous approcher de Dieu et à être en communion avec Dieu. C'est ce fameux chandelier. Il nous conduit à nous mettre à part pour la prière, comme l'Esprit a poussé Pierre. Par exemple, Pierre, vers midi, il a été poussé par l'Esprit à la prière. Il a passé un temps de prière au moment du repas et c'est là qu'il a eu la révélation avec la nappe et les animaux pour aller vers les païens. Ésaïe 7 même donne 7 noms au Saint-Esprit. Remarquez, rappelez-vous qu'il y avait 7 lampes sur le tabernacle. Eh bien, si vous lisez Ésaïe, il donne 7 noms au Saint-Esprit. Esprit de l'Éternel, Esprit de sagesse, Esprit d'intelligence, Esprit de conseil, Esprit de force, Esprit de connaissance, Esprit de crainte de l'Éternel. 7 noms du Saint-Esprit, 7 flammes dans le tabernacle. Et ça représente bien le Saint-Esprit. On arrive derrière. Une fois qu'on a pris le pain, on est au bénéfice de la lumière et du feu de ce chandelier. Il y a l'autel des parfums juste derrière. Et Aaron devait offrir des parfums tous les jours. Et qu'est-ce que c'est ce parfum de bonne odeur qui monte devant Dieu ? Ça représente les prières des saints. Dans l'Apocalypse, vous le voyez, les prières montent comme un parfum devant Dieu. C'est ça l'autel des parfums. Donc, tous les jours, on devait offrir cet encens, ces parfums. Eh bien, ça veut dire que tous les jours, nous devons nous approcher de Dieu dans la prière. Ça, c'est le sens spirituel. Et nos prières montent devant Dieu si nous arrivons à l'autel des parfums. Mais voyez, avant d'arriver à l'autel des parfums, il y a tout un parcours par la porte, par la croix, par la parole qui purifie nos cœurs. Et puis, on se nourrit des pains de proposition. Il y a l'esprit qui est là. Et tout cela est lié. On ne va pas directement à l'autel des parfums parce qu'il faut que ces prières soient agréées de Dieu. Alors, très peu de chrétiens, finalement, prient tous les jours. Peut-être ils prient une fois ou deux, ou juste le mardi soir. Ils pensent qu'ils ont fait leur prière. Mais en fait, dans la parole de Dieu, les prières, c'était tous les jours. Et pour nous, c'est pareil. Le chrétien va prier tous les jours. Aaron avait l'interdiction d'apporter sur cet autel-là un feu qui venait du dehors, un feu étranger. Il fallait que ce soit un feu agréé de Dieu. Et donc, ça veut dire qu'il y a des prières. Si vous les apportez sur l'autel du parfum, si c'est un feu étranger, eh bien, ça sera désapprouvé de Dieu. Donc, nos prières, elles doivent être agréées. Jacques en parle, hein, de ce feu étranger. Ce sont les prières charnelles. Jacques, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Voilà le feu étranger. Prière égoïste. On veut quelque chose pour satisfaire des passions. Dans le but de satisfaire des passions, il dit, dans le but de se mettre en avant, chercher les premières places, eh bien, tout cela n'est pas agréé. Ça, c'est du feu étranger. Et je termine avec la septième étape. Alors, on va passer le voile. Derrière ce lieu saint, il y a le lieu très saint. Et là, on arrive dans le lieu très saint. C'est la dernière partie du tabernacle, la plus petite. C'est là où il y a l'arche de l'Alliance. C'est le lieu très saint. Derrière l'autel des parfums, il fallait franchir ce rideau. Et là, c'était encore plus difficile d'accéder, puisque c'était une seule fois par an. Une seule fois par an que le souverain sacrificateur, il allait là. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette arche de l'Alliance? Il y avait trois choses. Un, le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Ça voulait nous rappeler la résurrection que Dieu peut faire, parce que le bâton, il était sec, il était mort. Mais Dieu a donné vie à ce bâton pour qu'il y ait des amandes. Donc le bâton qui avait fleuri nous parle de résurrection. Deuxièmement, il y avait la manne dans un vase d'or qui était conservé là pour nous rappeler le pain et la provision surnaturelle de Dieu. Et troisième élément très important, il y avait les deux tables de la loi que Moïse avait ramenées du mont Sinaï. Et dans ces deux tables de la loi, il y avait toutes les exigences de Dieu, il y avait les 10 commandements. Donc il y avait tout ça dans l'arche. L'arche était un coffre. Et sur ce coffre, il y avait un couvercle, et vous le voyez ici dessiné le couvercle, c'est le couvercle où on mettait le sang. On ne mettait pas le sang à l'intérieur, on mettait le sang dessus, ici, entre les deux chérubins. Donc les deux chérubins qui se faisaient face, ils regardaient vers où les chérubins? Ils ne regardaient pas en l'air, ils ne regardaient pas l'un l'autre, ils regardaient, vous voyez leur tête, elles regardent vers le sang. Elles regardent. Donc les chérubins, ils regardaient en bas. Ils regardaient vers le sang versé, c'est le lieu de la propitiation, c'est le lieu. En fait, ce sang, il voulait dire, bien voilà, la loi, elle vous condamne. Elles disent que si vous ne respectez pas les commandements, vous êtes pécheur et perdu. Mais par-dessus cette loi, il y avait le sang. Et ce sang, ça évoque que Dieu va être favorable. La propitiation, ça veut dire que Dieu est favorable maintenant. Et c'est ce qui va se passer en Christ. Eh bien, Christ a pris sur lui la colère de Dieu et maintenant Dieu nous est favorable. Ça veut dire que les chérubins, ils regardent le sang et maintenant nous sommes graciés. Il n'y a plus de condamnation. Il y a un verset qui dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang de Christ. En fait, quand Dieu nous voit, il nous voit à travers le sang de Christ. Et ainsi, nos péchés sont lavés. Ça, c'est l'étape de la véritable adoration en esprit et en vérité. Donc, on est dans le lieu très saint. On est prosterné devant Dieu et on l'adore. On écoute le cœur de Dieu, on ressent sa pensée en nous. Là, on est à un stade de communion intense. Et voyez, on ne peut pas arriver directement dans le lieu très saint. Il y a tout un cheminement par la porte, l'autel des sacrifices, la cuve, les pains de proposition, le chandelier. Voyez, il y a tous ces éléments qui sont là. L'autel des parfums, nos prières qui montent, et puis la véritable adoration. Et ce que Dieu veut, ce sont des véritables adorateurs en esprit et en vérité. Vous voyez, on s'approche de Dieu, on s'approche toujours plus près de Dieu. On ressent les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On contemple sa gloire. L'arche est l'image sur terre de ce qu'il y a au ciel. Ça, il faut le retenir dans Apocalypse 11, 19. Et le temple de Dieu dans le ciel. Et on parle bien d'un temple dans le ciel. Il y avait un temple sur la terre, il a disparu, mais il y a un temple dans le ciel. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Ça veut dire que dans le ciel, il y a une arche spirituelle. Elle n'est plus sur la terre, mais elle est spirituelle. C'est pour ça que cette arche, elle existe. Et il y eut des éclairs et des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. En fait, cette arche, pour nous, c'est le lieu de la sainte présence de Dieu, c'est le lieu de l'adoration et de la communion avec Dieu. Et retenez bien ceci, c'est que tous ces éléments qu'on a vus dans le tabernacle, ils n'existent plus sur la terre, mais ils existent dans le ciel, et c'est spirituel. Et c'est la manière dont nous allons nous approcher de Dieu. Parce que nous ne sommes pas charnels, mais nous sommes spirituels. Et c'est comme ça qu'on entre en communion avec Dieu. Alors on va prier un instant. On voit que le tabernacle, pour nous, c'est le vrai modèle pour nous approcher de Dieu par la prière. Entrons par la porte, entrons par Jésus-Christ, entrons avec des louanges dans sa présence, passons par l'autel des holocaustes, c'est-à-dire reconnaissons que Jésus est mort à la croix pour effacer nos péchés, et aussi nous montons sur l'autel pour nous consacrer à Dieu. Ça, c'est l'autre aspect. Troisième étape, la cuve des reins pour se laisser purifier par la parole de Dieu. Quatrième étape, les pains de proposition pour chercher une communion avec Dieu et avec les autres. Cinquième étape, le chandelier pour laisser l'Esprit nous inspirer dans nos prières, prier en langue, prier par l'Esprit. Sixième étape, l'autel des parfums pour que nos prières montent comme un parfum de bon odeur devant son trône. Et puis, l'arche de l'Alliance, contempler Dieu dans l'adoration, dans la reconnaissance. Merci encore, Seigneur, pour ces exemples que tu nous as laissés dans ta parole, qui nous enseignent à nous approcher plus près de ton trône, à passer par toutes ces étapes, à rentrer dans le lieu très saint, Seigneur, pour faire monter la reconnaissance de nos cœurs. Oui, Seigneur, merci de conduire encore, nous conduire plus loin dans la prière, de renouveler, Seigneur, notre vie de prière par ton esprit, parce que nous ne voulons pas avoir une vie de prière formaliste, mais une vie de prière spirituelle comme un parfum de bonne odeur. Merci d'encourager chacun, chacune, à prendre le chemin du tabernacle, des sept étapes pour nous approcher de toi et d'être en communion avec toi. Oui, dans le nom de Jésus, nous te rendons gloire. Amen.